France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les États-Unis essayent de convaincre le monde que la guerre contre l'Iran ne va pas durer longtemps, mais le ministre de la Défense, Pete Hegseth, ne dit pas exactement la même chose que Donald Trump. Nous ferons le point avec Camille Magnard dans un instant. À Téhéran, malgré la censure, des Iraniens racontent leur vie sous les incessants bombardements. Témoignages à suivre dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, Volkswagen annonce 50 000 suppressions d'emplois, le constructeur automobile allemand qui perd des parts de marché en Chine. La campagne des municipales nous emmène à Lyon ce soir. Le favori des sondages, Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite, défie le maire sortant écologiste Grégory Doucet. La guerre contre l'Iran est quasiment finie, elle se terminera bientôt. Voilà le discours martelé hier soir par Donald Trump, visiblement soucieux de rassurer les marchés. De fait, le pétrole est repassé en début d'après-midi sous la barre des 100 dollars le baril, un peu plus de 91 dollars pour le Brent qui fait référence. Aujourd'hui, c'était au tour de Pete Hegseth de relayer la parole du président américain devant les journalistes. Le ministre de la Défense a notamment annoncé une nouvelle intensification des frappes contre le régime des Mollahs. Nous sommes avec Camille Magnard, correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Camille, Pete Hegseth n'a pas vraiment confirmé que la fin de la guerre n'était plus qu'une question de jours.
Non, c'est vrai. Et pourtant, notre combat touche sa cible, martèle Pete Hegseth.
Au dixième jour de notre opération Epic Fury, nous sommes en train de l'emporter. L'Iran est isolé et il est en train de perdre à plate couture.
Alors forcément, le secrétaire américain à la guerre est interrogé par les journalistes sur la durée des combats prévus par le Pentagone.
Nous ne céderons pas tant que l'ennemi n'aura pas été vaincu de manière totale et définitive. Mais nous le faisons au rythme que nous fixons. Par exemple, aujourd'hui, nos frappes seront à nouveau les plus intenses sur l'Iran. Plus de soldats, plus de bombardiers, plus de frappes et des renseignements plus précis que jamais.
Alors, on entend Pete Hegseth qui cherche surtout à se démarquer des campagnes militaires précédentes au Moyen-Orient et du spectre d'une guerre sans fin, Camille.
Oui, c'est son obsession depuis qu'il a pris la tête du Pentagone. Lui, l'ancien présentateur de la chaîne Fox News qui a servi en Irak et en Afghanistan et aime à rappeler d'ailleurs ses faits d'armes.
Nous ne sommes plus en 2003 dans ces histoires sans fin de reconstruire la démocratie, ces bourbiers dans lesquels nous ont menés Bush et Obama. C'est tout l'inverse. Notre génération de soldats ne laissera pas ça arriver à nouveau, pas plus que ce président qui a clairement rejeté ces missions nébuleuses, vagues et sans fin. Ces jours-là appartiennent au passé.
Et à cette vision d'une armée dévoyée, selon lui, par les idées wokistes ces deux dernières décennies, Pete Hegseth oppose la sienne, celle d'une armée américaine qui renoue avec la glorification de la force virile de l'Amérique blanche et chrétienne, de la force brutale et sans merci face à l'ennemi, et d'une loyauté sans faille envers Donald Trump. C'est lui et personne d'autre, prévient Hegseth, qui décidera quand cette guerre sera terminée.
Merci Camille Magnard depuis Atlanta. Pour contredire Donald Trump et ses rêves de guerre éclair, le régime des Mollahs se dit prêt à se battre aussi longtemps que nécessaire et chaque fois que cela sera nécessaire. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères pour Abbas Araghchi. Les négociations avec Washington ne sont plus à l'ordre du jour. En Iran, les témoignages venus de l'intérieur du pays sont rares en raison de la censure et du blocage d'Internet. Entre deux coupures, certains habitants acceptent malgré tout de raconter leur vie sous les bombardements israélo-américains. Camille Marigot.
Grâce à un de ces systèmes VPN qui permettent aux Iraniens de se connecter à Internet, Sarah, qui, précisons-le, parle de guerre impérialiste sur ses réseaux sociaux, nous décrit les frappes sur les infrastructures civiles.
There are residential buildings being destroyed, residential units.
Des immeubles résidentiels, des logements, de nombreux centres culturels sont détruits, des hôpitaux ont été touchés et ont subi de graves dommages.
And have sustained severe damages.
À Téhéran, les habitants sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes, sans sirène, pour les avertir des tirs de missiles.
Every time,
chaque fois que nous entendons les bombes, nous n'avons aucune idée de l'endroit où elles vont frapper.
Beaucoup de gens ont quitté la capitale bombardée, Téhéran plus calme, plus vide, mais où la vie continue, nous assure Sarah.
There are people going to work.
Les gens vont travailler. C'est vrai que de nombreux lieux ont réduit leurs horaires d'ouverture, mais ils continuent de fonctionner.
They're working.
Tout le monde essaie de vivre aussi normalement que possible, dit-elle.
I mean, not that we're not really deeply saddened or
ce n'est pas que nous ne sommes pas tristes ou effrayés à l'idée de perdre la vie ou des être cher, mais nous avons le sentiment que cela passera. Nous ne sommes pas dévastés.
Une autre Iranienne que nous avons réussi à contacter nous explique, elle, qu'à Téhéran, beaucoup de gens vont jusqu'à se réjouir quand ils entendent une frappe en se disant qu'elle a peut-être tué des membres du régime.
Camille Marigaud de la rédaction internationale de Radio France. Dans ce conflit qui touche une vaste zone géographique du Liban à l'Iran, en passant par tous les pays du Golfe, les images satellites jouent un rôle stratégique majeur. Nous sommes avec Noémie Lair de l'agence de vérification de Radio France. Noémie, tous les belligérants ont recours à ces images venues de l'espace.
Les images satellites sont notamment utilisées pour surveiller des positions ennemies. Les Iraniens, par exemple, se servaient d'un satellite russe pour observer Israël. Repéré par l'armée israélienne, le centre spatial à Téhéran a été touché par des frappes dimanche dernier. Une entreprise chinoise se vante, elle, de publier les images satellites des mouvements de l'armée américaine. Quant côté américain, à l'inverse, les entreprises qui exploitent les satellites sont tenues de ne pas publier certaines images. La société américaine Planet Labs, par exemple, a annoncé la semaine dernière imposer un délai de 96 heures avant de mettre à disposition ces photos prises au-dessus des pays du Golfe alliés des États-Unis contre quelques heures habituellement. L'entreprise veut éviter que ces images soient utilisées par l'Iran, ce qui pourrait selon elle mettre en péril la sécurité de personnel et de civils alliés.
Et cette manipulation des images satellites, Noémie, peut déboucher sur des opérations de désinformation.
Oui, parce que de fausses images satellites sont créées ou modifiées, notamment par intelligence artificielle. L'une d'entre elles, particulièrement convaincante, a été massivement partagée sur les réseaux sociaux. Elle est censée montrer une image d'un radar américain au Qatar détruit par un drone iranien. En réalité, plusieurs incohérences permettent de déceler l'utilisation d'une intelligence artificielle. Alors ce n'est pas la première fois qu'une telle manipulation se produit dans un conflit. Ça s'est vu pendant la guerre en Ukraine ou celle entre l'Inde et le Pakistan l'an dernier, mais le phénomène s'intensifie. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les images satellites sont extrêmement précieuses dans un conflit. Elles permettent à des enquêteurs, des chercheurs, à nous, journalistes, de vérifier des informations. C'est une preuve visuelle essentielle quand on ne peut pas se rendre sur le terrain. Et ce travail de vérification est rendu plus complexe par ces instrumentalisations.
Noémie Lair de l'agence de vérification de Radio France. Décidément, les temps sont durs pour les constructeurs automobiles allemands. Après Mercedes le mois dernier, c'est au tour de Volkswagen de présenter de mauvais chiffres pour 2025. Le premier constructeur européen annonce la chute de près de moitié de son bénéfice net et la suppression de 50 000 postes en Allemagne. Bonsoir Sébastien Baer, correspondant de France Culture à Berlin. Sébastien, les résultats que vient d'annoncer Volkswagen sont les plus mauvais depuis bien longtemps.
Oui, Stanislas, 6,9 milliards d'euros de bénéfices seulement en 2025. C'est tout simplement le pire résultat pour Volkswagen depuis 2016, année du Dieselgate. Vous savez, le scandale des moteurs truqués. Alors, la reprise timide sur le marché européen n'a pas suffi à enrayer la baisse mondiale des ventes. Moins 6% en Chine, où Volkswagen continue à perdre du terrain face à la montée en puissance du constructeur BYD. Moins 12% sur le marché américain, plombé là par les surtaxes douanières de Donald Trump. Parmi les 10 marques que détient Volkswagen, Audi et Porsche sont en grande difficulté. Porsche, autrefois pourtant très rentable, voit son bénéfice chuter de 90%, pénalisé par les 5 milliards d'euros qu'il a fallu investir dans la transition électrique. Quant à Audi, la marque n'a pas d'usine aux États-Unis, elle importe toutes ses voitures et subit donc de plein fouet les droits de douane américains. Plus que jamais en quête d'économie, Volkswagen avait déjà annoncé 35 000 suppressions d'emplois d'ici 2030. Ce sont finalement 50 000 postes qui vont disparaître en Allemagne. Avec cette restructuration, le premier constructeur européen espère économiser 6 milliards d'euros par an d'ici 2030. Pour se relancer, le fabricant mise aussi sur la commercialisation de 20 nouveaux modèles, dont certains conçus spécialement pour le marché chinois. Volkswagen espère retrouver cette année une marge comprise entre 4 et 5,5%. Elle est tombée à 2,8% l'année dernière.
Sébastien Baer en direct de Berlin, merci. De son côté, Renault a présenté ce matin ses objectifs pour les prochaines années. D'ici 2030, la marque Renault vise 100% de ventes électrifiées en Europe et 50% hors d'Europe, a expliqué son nouveau directeur général François Provost. Électrifié, cela signifie 50% de véhicules tout électriques et 50% de véhicules hybrides. Les deux jambes de Renault, a ajouté François Provost. La réforme des ruptures conventionnelles pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d'euros à l'assurance chômage. Le gouvernement a réalisé une étude d'impact sur les nouvelles règles à venir du dispositif. L'accord entre un salarié et sa direction pour une rupture de contrat à l'amiable. Fin février, les partenaires sociaux ont décidé de réduire la durée d'indemnisation des salariés concernés. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Ce changement va effectivement permettre à l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage de réaliser des économies.
Oui, car avec ce passage de 18 à 15 mois pour la durée maximale d'indemnisation, les allocataires vont y perdre et l'UNEDIC va y gagner. L'assurance chômage devrait économiser entre 600 et 800 millions d'euros, selon la DARES, le service statistique du ministère du Travail. Deuxième effet de ce nouvel accord entre syndicats et patronat, selon cette même étude d'impact, cette mesure aurait pour conséquence 12 à 15 000 retours à l'emploi supplémentaires. Sur le papier, cette réduction du temps d'indemnisation sera non seulement un gain financier, cela devrait inciter les salariés à reprendre plus vite un nouvel emploi, et par ailleurs cela pourrait décourager certains d'avoir recours à une rupture conventionnelle. CFDT, Force ouvrière et CFTC ont signé cet accord quand la CGT s'y est opposée. Le syndicat mené par Sophie Binet estime que le patronat a largement abusé de ces ruptures conventionnelles pour notamment se débarrasser de salariés de plus de 50 ans et qu'il aurait mieux valu appliquer des malus aux entreprises qui abusent de ce dispositif. Enfin, l'UNEDIC alerte, son déficit s'accroît malgré tout. L'organisme paritaire subira cette année un déficit de plus de 2 milliards. Syndicats et patronats demandent donc à l'État de cesser de ponctionner dans ses caisses qui étaient, disent-ils, jusqu'à présent bien géré.
Wafia Kenich, merci. C'est sans doute la principale organisation criminelle impliquée dans le narcotrafic en France, en tout cas la plus connue. La DZ Mafia a essuyé aujourd'hui un revers majeur, un vaste coup de filet qui a abouti à l'interpellation de 42 membres présumés du gang. Pierre de Cossette, parmi les personnes interpellées, il y a les trois chefs présumés de l'organisation.
Oui, surnommés La Brute, Gabi ou encore Mamine, trois hommes bien connus de la justice, au point d'être déjà incarcérés. Les gendarmes sont donc allés les extraire de leurs cellules, notamment dans la prison à haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, où est détenu Mamine, que les enquêteurs soupçonnent d'être derrière l'assassinat de Mehdi Kessassi en novembre dernier. Mais cette opération menée hier et aujourd'hui est sans lien avec la mort du frère du militant écologiste marseillais. C'est un autre dossier bien plus vaste sur le fonctionnement et le financement de la DZ Mafia. Aux manettes, deux juges d'instruction spécialisés de Marseille enquêtent pour direction d'un groupement ayant pour activité le trafic de drogue, mais aussi pour blanchiment aggravé. Comprendre qui fait quoi dans cette organisation criminelle dont les autorités essayent d'endiguer la progression, d'où cette vague d'interpellations, 42 suspects, parmi lesquels l'avocat d'un membre influent de la DZ Mafia.
La DZ Mafia qui, malgré l'incarcération de certains de ses chefs présumés, poursuit ses activités, Pierre.
Ce que les policiers écrivaient bien dans une note l'été dernier en soulignant la résilience de cette organisation à l'incarcération de ses leaders. Une organisation opportuniste qui a émergé dans le trafic de stupéfiants avec des velléités expansionnistes poursuivent les policiers et dont les zones d'influence dépassent aujourd'hui très largement Marseille, la Côte d'Azur, le Puy-de-Dôme et jusqu'à la Loire-Atlantique. Un groupe qui joue sur la peur, décryptent les analystes policiers avec un recours très facile à l'ultraviolence et aux tueurs à gage recruté pour quelques milliers d'euros.
Explication signée Pierre de Cossette. La campagne des municipales après Strasbourg hier. On s'intéresse ce soir à Lyon, dans la troisième ville de France. L'enjeu du pouvoir concerne aussi la métropole, avec un triple scrutin dimanche pour le premier tour. À Lyon, le grand favori des sondages s'appelle Jean-Michel Aulas, l'ancien président emblématique de l'Olympique Lyonnais, le club de football. Mais le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, compte bien renverser la tendance avec sa liste d'Union de la gauche hors LFI. Lyon, où neuf listes s'affrontent dimanche avec en toile de fond le lynchage mortel du militant identitaire Quentin de Rancq le 12 février. C'est un reportage de Christophe Vincent.
Pour le candidat ciotiste et RN, le drame du 12 février illustre une dérive de l'ultra-gauche Alexandre Dupalet.
Après l'assassinat de Quentin de Rancq par l'extrême-gauche, après les violences contre le jeune Théo, on vit dans une ville qui subit la violence de plein fouet. Nous, c'est notre priorité depuis le début de cette campagne.
Haro sur la France insoumise pour ses liens avec la jeune garde mise en cause. Sa candidate Anaïs Belouassa-Chérifi a reçu des menaces de mort et de viol, mais elle fait face.
On a vraiment des gens qui viennent nous dire « tenez bon ». « merci. Vous êtes le seul mouvement politique qui ne tremble pas face à l'extrême droite. Et nous, jamais, on se taira et on fera en sorte que notre ville, elle soit le lieu de l'expression de toutes et tous.
Dans son programme, la députée du Rhône propose la réquisition des logements vacants et les cantines gratuites.
Nous avons structuré plusieurs propositions autour de l'enfance. D'abord, la question de la cantine scolaire et du petit déjeuner gratuit dans toutes les écoles de Lyon. L'ambition, c'est bien sûr de faire en sorte que les enfants n'aillent pas le ventre vide à l'école et aussi qu'ils apprennent dans de bonnes conditions. La cantine scolaire gratuite, pour nous, elle revient en régie publique. C'est comme ça qu'on arrive à la financer. C'est comme ça qu'on arrive à créer aussi des emplois, des agents supplémentaires pour la ville de Lyon. Et bien sûr, pour faire en sorte que nos enfants aient de la nourriture de qualité bio, locale, faite avec les agriculteurs du Rhône.
Jean-Michel Aulas veut redynamiser la ville et réduire les embouteillages par un tunnel de 8 km. Le candidat de la droite et du centre se méfie des sondages qui le donnent vainqueur.
Dans la vie, dans le sport, jamais rien n'est acquis. Ça a été une campagne assez courte en fait, puisque je ne m'étais pas a priori partant. C'est une campagne de changement d'orientation. Les Lyonnaises et les Lyonnais ne veulent plus d'un Lyon sur le déclin, mais d'un Lyon qui soit en croissance. On arrive en fin de campagne. Et c'est cet enthousiasme qui est véritablement très sympathique.
Pour promouvoir le sport, Grégory Doucet a revêtu un maillot de l'OL qu'Aulas a présidé pendant 36 ans. Pour le maire écologiste, rien n'est joué.
La campagne se passe très très bien. Peut-être qu'on devrait faire des sondages avant les matchs de foot aussi pour savoir si les supporters d'un côté ou de l'autre sont plus enthousiastes ou pas. Et finalement, ça ne dirait pas grand-chose du résultat final. Et bien c'est pareil en politique, figurez-vous. Les sondages ne font pas une élection. Le match, il est terminé à la fin du temps réglementaire. Et la fin du temps réglementaire, c'est le 15 mars pour la première date.
Doucet, Aulas et les autres, c'est toujours plus d'impôts, déplore Alexandre Dupalet, qui se dit seul candidat de droite.
Ces gens proposent la gratuité des transports, la gratuité des cantines scolaires pour tous, face à la course à l'échalote de la gratuité entre les différents candidats socialistes dont Jean-Michel Aulas fait partie désormais. Ce qu'il faut, c'est des dispositifs d'aide ciblés pour les gens qui en ont besoin. Et les gens commencent à comprendre que toutes ces gratuités, tous ces méga travaux promis par M. Aulas, le méga tunnel, l'hôtel des polices à 200 millions d'euros, tout ça va coûter cher. Et à la fin, ce sont les Lyonnais qui vont payer. M. Aulas a dit, Lyon a les moyens de payer. Bien, je ne pense pas. Moi, je pense que les Lyonnais, ils ont déjà été matraqués fiscalement. M. Doucet a déjà augmenté la taxe foncière de 9%. Les gens ne veulent pas plus d'impôts, ne veulent pas plus de travaux et veulent une alternance, une rupture claire avec M. Doucet. Ils réalisent de plus en plus que cette alternance, c'est ce que nous portons avec nos listes Retrouver Lyon.
Sont également candidats à Lyon l'ancien maire Georges Képénékian, divers centres, Nathalie Perrin-Gilbert, divers gauche, Delphine Bridet, lutte ouvrière, Michaël Jouteux du Parti des Travailleurs et Raphaël Misoni du nouveau parti anticapitaliste.
La campagne à Lyon, reportage signé Christophe Vincent. Un quart d'heure de lecture par jour, c'est le nom de l'opération lancée en 2019. Par le Centre National du Livre. Plus de 800 événements étaient programmés aujourd'hui pour nous inciter à abandonner nos écrans, l'espace de quelques minutes pour prendre un livre. Ce quart d'heure de lecture a commencé dans les écoles. Il est désormais aussi proposé aux adultes. Bonsoir Chloé Leprince.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Parmi les dispositifs pour développer la lecture, Chloé, il y a les boîtes à livres dont on connaît mieux l'usage grâce à une étude sociologique.
Oui, on les a vus se multiplier dans l'espace public en France depuis le début des années 2000, une idée importée d'Autriche, mais on savait peu de choses sur les pratiques de leurs usagers jusqu'à une étude menée par le sociologue Claude Poinsenot, étude parue il y a un an et demi. Alors, les livres d'occasion qui circulent dans ces boîtes à livres se substituent-ils à ceux qu'on achète en librairie ou qu'on emprunte en bibliothèque ? Comment les intéressés perçoivent-ils les livres qu'ils trouvent gratuitement, mais aussi au gré du hasard ? Ce sont quelques-unes des questions que s'est posé le chercheur, même s'il a aussi détaillé au passage ce que les habitués y trouvent le plus, 11% du théâtre et de la poésie, 46% des polars, mais le plus partagé, ce sont les romans. Les trois quarts des usagers en trouvent, ou plutôt des usagères, car les femmes sont surreprésentées chez les habitués de ces cabanes qui ont essaimé, alors qu'on n'est pas loin de 50-50 hein, dans les librairies indépendantes, par exemple.
Finalement, Chloé, ce que l'on voit se dessiner, c'est surtout une complémentarité entre monde marchand et gratuité.
Oui, et attention aux idées reçues, si concurrence il y a, ce serait plutôt entre deux formes de lecture gratuite. La cannibalisation n'est pas celle qu'on pourrait imaginer. Les boîtes à livres attirent davantage à elles des acheteurs de livres que des emprunteurs en bibliothèque. Un utilisateur de boîte à livres sur deux n'emprunte jamais ou seulement très rarement des livres en bibliothèque, alors que seulement une toute petite partie des utilisateurs de boîtes à livres en font leur fournisseur principal. À peine un utilisateur sur cinq n'achète pas de livres au moins une fois par an en librairie. Et puis un point intéressant, Dans le détail qualitatif de cette enquête, on comprend au passage que la manière de considérer les livres n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un livre glané en boîte à livres ou d'un livre acheté en librairie.
Les boîtes à livres et leurs usagers, un éclairage signé Chloé Leprince. Un mot du temps, demain, un passage pluvieux traverse le pays d'ouest en est et la neige revient en montagne. Demain matin, il fera entre 4 et 9 degrés en général. Les températures maximales sont en baisse de 10 à 15 degrés sur la plupart des régions. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique Anthony Thomasson.